dans les années 60, quand j'étais petit enfant, oh, vous auriez vu les photos, j'étais très mignon. Comme quoi. Et quand j'allais à l'école, dans ma classe, dans nos classes d'ailleurs, dans les années 60, il y avait maximum un ou deux enfants dont les parents étaient divorcés. Les groupes, les populations n'étaient pas très mélangées à cette époque. Ceux qui l'ont vécu s'en souviennent. Sur les divorces, c'était la proportion à ce moment-là, moins de 10%. Donc je dis un ou deux, c'était maximum trois. Il y avait plus de, en 60, 320 000 mariages, moins de 30 000 divorces. Les groupes étaient homogènes. Ce qu'on vivait était assez unifié, homogène. Alors, le regard qui était porté sur les divorcés et sur les familles de divorcés n'était pas très beau. Il manquait d'amour, incontestablement. Il manquait d'amour parce qu'il ne regardait que la loi. Toute la question, c'est de savoir si, en enlevant la loi, en diminuant la loi, on augmente l'amour. Pas très sûr. Il y avait un certain nombre d'institutions à l'époque. La messe du dimanche était une institution. Elle était suivie du déjeuner en famille. La famille était une institution. Et à l'église aussi, l'assemblée était homogène. Des pratiquants, grande majorité de pratiquants d'ailleurs en France. Et puis dans les églises, c'était des gens du quartier qui se connaissaient entre eux. Aujourd'hui, à la messe le dimanche, dans la plupart des églises, l'assemblée est composite. Au moins dans la régularité. Il y a différentes... différentes familles, il y a les fidèles à proprement parler, ceux qui méritent le nom, qui ne souffrent aucun écart. Je rencontre encore des personnes d'un certain âge qui disent, à 80, 90 ans, en disant, je n'ai raté aucune messe du dimanche de ma vie. C'est beau, c'est vraiment beau. Mais comme on vit dans une société libérale, il y a de plus en plus de libéraux qui s'accommodent d'absences assez fréquentes, à tel point que les sociologues ont pris l'habitude de qualifier de messalisants qui vont à la messe, ceux qui y vont une fois par mois. Ça, c'est ce que disent les sociologues. Il y a les intermittents qui viennent par période, que ce soit en vacances, en dehors des vacances, peu importe. Il y a ce qu'on pourrait appeler les économes. Les économes, ils se limitent aux grandes fêtes. Les grandes fêtes, Noël, les rameaux, le 15 août, la Toussaint. Et puis, il y a ceux qui viennent une seule fois par an. En famille, à Noël. Comment les appeler à venir quand même plus souvent? Ça ne gêne pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il fait l'unité dans la diversité. Ça n'empêche pas non plus que Dieu attend de nous que nous lui soyons fidèles. C'est ce que nous venons d'entendre dans l'Évangile. Si vous m'aimez, dit Jésus, vous garderez mes commandements. C'est l'être même de Dieu. Dieu est fidèle. Et même quand nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. C'est le fondement de l'alliance, de tous les sacrements. Mais je me suis dit, est-ce que si la messe était simplement une fois par mois, est-ce que les baptisés seraient plus nombreux, présents? Est-ce que les catholiques viendraient plus souvent si c'était moins fréquent? Voilà une bonne question. Ici, dans la préparation mariage des fiancés, on propose une réunion une fois par mois. Et ils y sont plutôt assidus. Il faut dire que ça dure moins d'une année, une année scolaire, et que de toute façon, ils ont besoin de nous pour le dossier. Mais c'est quand même une question, est-ce que les catholiques seraient plus fidèles à la messe si c'était une fois par mois? Il y a eu dans les paroisses des réunions pour la préparation du synode. Dans beaucoup de paroisses, il y a même eu un compte-rendu qui a été présenté au niveau diocésain, et on a passé, quand on voit le compte-rendu, encore un temps totalement improbable à se demander si les prêtres devaient se marier. S'ils ne seraient pas plus nombreux, et peut-être même, qui sait, plus disponibles, s'ils étaient mariés. On peut énumérer comme ça toutes sortes de questions, que se passerait-il si la terre était plate, et ainsi de suite. Mais la question de fond, c'est de dire... Est-ce qu'en abaissant le niveau d'exigence, on facilite l'entrée? Il suffit de lire l'Évangile pour voir que ce n'est pas le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est le choix de l'exigence. Cela n'empêche pas la patience, l'indulgence, le pardon. Mais cela exige, à proprement parler, des efforts, des sacrifices, et en un mot, de l'amour. C'est ça le propre même de l'amour. Ce n'est pas une question de respect de la loi, ni de sens du devoir. Jusqu'à l'ascension du Seigneur, la Pentecôte commémorait le don de la loi. La loi, si sacrée, le don de la loi. Voilà ce que représentait la Pentecôte. On se souvenait que Moïse avait reçu la loi sur la montagne, il avait entreaperçu la gloire de Dieu, et quand il était redescendu de la montagne, son visage rayonnait. Mais depuis l'ascension du Seigneur, c'est-à-dire depuis la victoire du crucifié, qui est notre victoire, les cieux ouverts, depuis l'ascension du Seigneur, la Pentecôte célèbre le don de l'Esprit Saint, la naissance de l'Église, l'ouverture aux nations, voilà ce que nous fêtons aujourd'hui. Alors bien sûr, déjà le jour de Pâques, le Christ avait soufflé, le jour de la résurrection, il avait soufflé sur ses disciples en disant « Recevez l'Esprit Saint ». Bien sûr, l'Église était déjà née du côté transpercé du Christ sur la croix, il en était sorti du sang et de l'eau, les sacrements de l'Église. Mais fondamentalement, la Pentecôte, c'est cela. La naissance de l'Église par le don de l'Esprit. Alors bien sûr, nous savons qu'il n'y a pas que de l'Esprit Saint dans l'Église. Il n'y a pas que de la sainteté. Nous pouvons nous souvenir, encore une fois les plus anciens, il y avait Paul Valéry, après la guerre 14-18, en 1919, il écrivait « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. » Après la Grande Guerre, après les massacres, après les horreurs de la guerre. Mais était-ce vraiment une découverte? Était-ce vraiment une découverte de la réalité de notre humanité? Qu'il n'y a pas que des esprits saints dans l'Église, nous en avions un excellent rappel lundi dernier avec la fête de Sainte Jeanne d'Arc. Trahie par un évêque, bien nommé Cochon, Pierre Cochon. Il n'y a pas que l'Esprit Saint dans l'Église, mais l'Esprit Saint, c'est l'âme de l'Église. L'âme de l'Église. Et les sacrements dont nous vivons, ils nous donnent la grâce de lui être fidèle, d'être fidèle au Seigneur. Comme Sainte Jeanne d'Arc en a été le modèle. Jeanne, êtes-vous en état de grâce? Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Et les ennemis, Jeanne, Dieu a-t-il de la haine pour eux, nos ennemis, nos envahisseurs? S'il a de la haine ou de l'amour pour eux, je n'en sais rien, dit Jeanne. Je sais, elle pouvait reprendre même les termes, elle n'a pas repris les termes de Job, je sais que mon libérateur est vivant. Je sais qu'il est notre sauveur, notre rédempteur. L'Esprit Saint est l'âme de l'Église, et l'Église est une, sainte, catholique et apostolique quand elle se laisse conduire par l'Esprit Saint. Il y a deux dimanches, dans la lecture des Actes des Apôtres, nous l'entendions de la part des apôtres eux-mêmes, à ce qu'on appelle le premier concile de Jérusalem. Ils disaient, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Et ils avaient décidé quoi? De ne pas faire peser trop d'obligations sur ceux qui se tournent vers le Seigneur, sur ceux qui nous rejoignent, sur ceux qui marchent avec nous à la suite du Christ. Est-ce qu'une heure de messe le dimanche est une obligation excessive? Je pense souvent avec tendresse aux parents un peu débordés par leurs enfants, surtout les adolescents, à ces phrases qu'on dit plaisamment dans les familles. Ils disent à leurs enfants adolescents, vous l'avez déjà entendu, « Moins on t'en demande, moins tu en fais ». La Pentecôte, elle est précédée, comme toutes les grandes fêtes, d'une messe la veille au soir. On appelle une messe de vigile, pour être vigilant, voilà une bonne façon de s'en souvenir. Je vous invite, si vous avez le temps aujourd'hui ou ces jours-ci, d'aller chercher sur Internet, on les trouve facilement, les textes de la messe de vigile. Ce sont les textes fondamentaux de notre foi, du don de l'Esprit Saint. Et en particulier, il y a un texte magnifique, une vision du prophète Ézéchiel dans la vallée de la mort. Dans la vallée de la mort, couverte d'ossements desséchés, le Seigneur l'interroge. Fils d'homme, ces ossements, ces morts, est-ce qu'ils peuvent revivre? Seigneur, c'est toi qui le sais. Et le Seigneur lui dit, prophétise. Prophétise sur ces ossements, il y eut un bruit. une violente secousse, exactement comme le jour de la Pentecôte. Les ossements se rapprochèrent les uns des autres, ils se couvrirent de nerfs, la chair, la peau les recouvrait. Mais il n'y avait pas encore d'esprit en eux. Le Seigneur dit au prophète, invoque l'Esprit Saint. Le Seigneur dit à son peuple, invoquez l'Esprit Saint. Dis à l'Esprit, viens, viens Esprit des quatre vents. Viens, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. L'Esprit entra en eux, ils revinrent à la vie, ils se dressèrent sur leurs pieds, debout, ressuscités. Et le prophète dit, c'était une armée immense, il faut comprendre ce que ça veut dire. Vivant, discipliné, docile, motivé, combatif, aguerri, affûté, vivant. De quoi l'Esprit Saint est-il le défenseur? L'entendons dans l'Évangile, le défenseur. Mais le défenseur de quoi? De nos intérêts, de notre tranquillité, de nos projets? Il est le défenseur de notre fidélité dans le combat que nous avons à mener. La victoire du crucifié, la victoire de l'amour. Au vainqueur, dit le Seigneur, je donnerai un caillou blanc avec inscrit sur ce caillou un nom nouveau que lui seul connaît. Au vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, je siège avec mon Père sur son trône de gloire. Alors voilà pourquoi nous invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens des quatre vents. Sois notre défenseur, le défenseur de la victoire.